E-Radio. En duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.
Merci d'écouter E-Radio pour cette interview à l'occasion de la dernière session plénière avant les élections européennes ici au Parlement européen à Strasbourg. Je suis en compagnie de Lydie Massard, députée européenne française, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Bonjour Lydie Massard.
Bonjour.
Alors donc dernière session plénière, mais pour vous il y a aussi un petit goût de nouveauté puisque ce sont vos premières élections européennes en poste en tant que députée européenne. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être une impression, comment vous vivez cette période un petit peu différente finalement?
Effectivement, c'est la première fois que je suis candidate en étant en mandat. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça nous donne une expérience, on sait exactement de quoi on parle, en particulier sur les sujets sur lesquels on a le plus travaillé pendant le mandat. Et puis, c'est en fait l'aboutissement d'un mandat, hein, c'est de pouvoir faire le bilan du travail qui a été effectué et aussi de pouvoir parler avec les gens de terrain du travail qu'on a effectué pendant les mois où on a été présent à Bruxelles et à Strasbourg.
Lydie Massard, au Parlement européen, vous êtes tout particulièrement membre de la commission Envie, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Et cette semaine, parmi les textes débattus et votés, il y a la révision de la politique agricole commune. Alors pour rappel, la PAC, politique agricole commune, est entrée, dans sa nouvelle forme, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Une nouvelle révision se profile, celle-ci se dit ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne va pas changer grand-chose à la PAC?
Alors, effectivement, on ne change pas l'esprit de la PAC, juste on assouplit et on s'assoit quand même, il faut dire, sur les normes environnementales qui avaient été mises en place suite à la colère des agriculteurs et aux manifestations qu'on a vues ces dernières semaines. Je regrette profondément la manière dont les choses se passent, d'abord parce que tout ça arrive très vite, qu'il n'y a pas de débat au Parlement européen sur la question du changement de PAC, et puis aussi parce que moi je m'intéresse beaucoup aux questions d'agriculture, je vois plein d'agriculteurs et que jusque-là j'ai encore vu aucun agriculteur qui demandait réellement spécifiquement un assouplissement des règles de la PAC. Je n'ai vu que des agriculteurs qui demandaient à vivre dignement de leur travail.
Qu'est-ce qui est soumis au vote lors de cette session plénière précisément concernant la PAC?
En fait, c'est un assouplissement des règles environnementales et par exemple le fait, cette histoire de prairie herbagée où il n'y a plus besoin en fait de prouver qu'on entretient bien son sol, qu'on le garde fertile, ce qui va tendre vers une agriculture qui est de plus en plus intensive et surtout ce qui va épuiser la ressource sur laquelle les agriculteurs travaillent. Et ça, c'est vraiment grave. Moi, quand je discute avec des agriculteurs, ils me disent tous qu'on n'a pas forcément envie d'assouplir les normes environnementales parce qu'on n'a pas envie de scier la branche sur laquelle on est. C'est-à-dire qu'on a besoin que les sols soient fertiles et on a besoin de pouvoir continuer de cultiver correctement sur nos sols. Et aussi, en faisant ça, on les rend de plus en plus dépendants à l'industrie agroalimentaire et aux industries de phytosanitaires.
Vous faites référence à l'exigence pour les agriculteurs de maintenir ce qu'on appelle des prairies permanentes.
Oui, donc c'est ça.
On parlait, si je ne me trompe pas, de 5% de la surface agricole exploitée. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y avait des contrôles avant? D'où vient finalement cette demande d'assouplir cette réglementation-là? Pourquoi est-ce que c'était pesant sur les exploitants agricoles?
Moi, j'ai pas senti ça des conversations que j'ai eues avec les agriculteurs. En revanche, ce que j'ai bien senti, c'est qu'il y a eu l'utilisation du mécontentement des agriculteurs pour le transformer en discours politique de la part de la droite et de la part de l'extrême droite, qui ne sont effectivement pas favorables aux normes environnementales et qui veulent depuis plusieurs semaines revenir sur le Green Deal. Et donc, ils se sont servis de cette colère. Mais moi, je pense que la bonne réponse, c'était pas ça pour donner de l'air aux agriculteurs. La bonne réponse, c'est de payer au prix juste leur production. Parce que à aucun moment dans cette PAC, en fait, on remet en question les marges que se font les industries de l'agroalimentaire, les industries de vendeurs de phytosanitaires et les grands distributeurs.
L'esprit derrière cette révision ciblée de la PAC, c'est plutôt, comme vous le disiez, une flexibilité plus grande pour les États, moins de contrôle, des subventions plus facilement accordées aux agriculteurs et non plus uniquement basées sur le respect des normes environnementales. Même dans le cas des petites exploitations, j'ai vu les exploitations de moins de 10 hectares seront carrément exemptées de contrôle de la part de la Commission européenne. Peut-on dire que cette révision de la PAC représente-t-elle le choix de préférer uniquement un soutien aux agriculteurs au détriment de continuer les efforts en matière environnementale?
Oui, moi je pense qu'il y a une vraie remise en cause aujourd'hui du Green Deal et du slogan « Farm to Fork » nous ferme à la fourchette. Mais par contre, moi je ne suis pas d'accord pour dire que ça va profiter aux petites fermes. Déjà aujourd'hui, 80% de la PAC revient à 20% des fermes. Et ce n'est pas en diminuant les contrôles qu'on va inverser cette proportion.
Parce que la base de la PAC, c'est de subventionner la surface.
C'est de subventionner à la surface et ou au bétail. La vraie solution, c'est de subventionner la PAC à l'actif, c'est-à-dire au nombre de personnes qui travaillent sur la ferme. Et puis aussi, moi je reviens sur le deuxième pilier de la PAC, qui est le pilier de la régionalisation de la PAC, parce qu'en fait, si on veut faire une vraie politique cohérente, il faut adapter la politique agricole au territoire. Et aujourd'hui, on ne le fait pas dans l'Union européenne. Ce sont les États qui décident de la politique agricole et les régions qui sont autorités de gestion. En tout cas, c'est le choix qu'a fait la France. Et moi, je dis qu'à aucun moment, on essaye d'avoir des politiques efficaces et ciblées avec cet assouplissement des normes. Or, la vraie solution, elle aurait consisté, par exemple chez moi en Bretagne, où l'agriculture c'est un poids lourd de l'économie, où on a un vrai problème de transmission de fermes, elle aurait consisté plutôt à donner des subventions aux régions, qu'elles puissent les distribuer aux agriculteurs en fonction des besoins spécifiques de la région à laquelle on s'adresse. Ça aurait été une politique intelligente, une politique courageuse et une politique efficace.
Une PAC plus territorialisée, Philippe.
Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça la régionalisation de la PAC.
Revenons sur le format de cette révision de la PAC proposée ici au Parlement européen. Il a été, vous l'avez mentionné au début de notre entretien, il a été présenté au Parlement selon une procédure d'urgence, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que, en fait, il n'y aura pas de débat sur cette question, qu'on va voter pour ou contre la politique d'urgence, et que donc on va donner le pouvoir aux États et à la Commission de prendre les mesures qu'eux ont jugées nécessaires. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans le... On rentre dans les travers de l'Union européenne, en fait, parce qu'il y a un problème de démocratie dans l'Union européenne, et que cette procédure d'urgence, elle montre vraiment que finalement, nous, le Parlement européen, la seule instance élue qui représente les citoyens et les citoyennes de l'Union européenne, eh bien, on n'a pas la possibilité de s'exprimer sur cette question. On n'a même pas la possibilité de faire un débat, finalement. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave.
Pour citer les propos d'un autre eurodéputé français, Christophe Clergeau, du groupe socialiste et démocrate, qui est aussi particulièrement engagé sur les sujets agricoles, il a même dénoncé cette procédure d'urgence qui, selon lui, je cite, va inciter à l'UE à prétendre répondre aux mobilisations agricoles en moins de 3 semaines, dans l'improvisation totale, selon ses mots, sans étude d'impact, sans vérifier les problèmes de fond, et que cela risque même, selon lui, d'aggraver les problèmes de concurrence dans l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec une telle prise de parole ?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, je connais bien Christophe Clergeau, et c'est un sujet sur lequel on est tous les deux assez d'accord. Et moi, j'ajouterais qu'en fait, en faisant ça, on donne la main aux États, et on sait comment ça marche aujourd'hui, la collaboration entre les États dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours beaucoup de collaboration, que les États agissent dans l'intérêt de leur propre État, alors que finalement, si on avait pu avoir un vrai débat et une vraie discussion au Parlement européen, si on avait pu faire des propositions, nous, au Parlement européen, on a une autre manière de travailler et on sort en fait de cet égoïsme des États et des intérêts particuliers des États. Et c'est ça qui aurait été intéressant et qui aurait été plus démocratique.
Si on s'intéresse maintenant à l'avenir, y a-t-il d'autres chantiers à prévoir pour la révision de la PAC ou pour la prochaine PAC, selon vous ? Peut-être l'adhésion future de l'Ukraine qui viendrait bouleverser les rapports entre les différentes agricultures européennes ?
Alors, c'est vrai que l'adhésion de l'Ukraine viendra un petit peu bouleverser les choses, puisque l'Ukraine a de grandes cultures céréalières ou de volailles, et si on garde la PAC telle qu'elle est aujourd'hui, elle captera à elle toute seule plus de 50% de la PAC, ce qui est énorme. Et je vois mal la France dire « Ok », sachant que la PAC représente beaucoup pour la France, hein. C'est entre 9 et 10 milliards d'euros. C'est le plus gros budget de l'Union européenne perçu par la France et de très très loin. Donc je vois mal la France dire d'accord. Donc peut-être ça peut être aussi, je ne vais pas dire une chance, mais ça peut être l'occasion de vraiment transformer en profondeur la PAC. En tout cas, moi je le souhaite. Et j'espère que cette fois on la changera dans le bon sens, même si, vu ce qui se profile avec les élections, je suis un peu sceptique, mais.
Et est-ce que ce sont des questionnements dont se saisissent les États ou la Commission ou les eurodéputés pour par exemple la prochaine PAC de 2028-2034 ou pas encore ?
Ben moi je sais que dans ma région c'est quelque chose qui préoccupe énormément. Je sais qu'il y a déjà des discussions.
Pour parler d'Ukraine, il y a aussi un sujet qui fait parler de lui, c'est le fait d'offrir les droits de douane aux produits agricoles ukrainiens qui peut agacer un certain nombre d'agriculteurs européens.
Oui, tout à fait.
Sans parler encore d'une adhésion qui reste pour l'instant
hypothétique. Oui, mais en tout cas, c'est des choses dont on parle beaucoup dans le milieu agricole. Chez moi en Bretagne, et Dieu sait que l'agriculture, c'est quelque chose d'important. Le président de la région Bretagne s'est même saisi de ce sujet. Lui, il demande instamment et depuis des mois une régionalisation de la PAC. Et il dit depuis longtemps, faites-nous confiance à nous, les élus locaux, pour pouvoir apporter des solutions concrètes et efficaces. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout parti dans cette ligne-là. Moi, je suis assez quand même, vu les sondages qu'il y a aujourd'hui, je suis quand même assez pessimiste sur un changement de fond de la PAC. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'en fait, finalement, tant qu'on n'aura pas une politique cohérente, une vraie politique agricole, ben on va continuer d'empiler des normes. Et ça, c'est terrible, parce que ça donne vraiment l'impression que l'Union européenne, c'est un truc technocratique. L'Union européenne a besoin de passer un nouveau cap, on a besoin d'une Europe plus fédérale, on a besoin d'un vrai gouvernement européen et d'un vrai Parlement européen avec une représentation régionale pour avoir une vraie politique qui soit cohérente.
Nous sommes à présent à moins de 2 mois des élections européennes, 1 mois et demi environ. Les protestations agricoles en Europe de l'Ouest et dans plusieurs pays européens ne sont pas si loin derrière nous. Est-ce que ces questions agricoles sont le principal enjeu de la préparation des élections européennes selon vous ?
Alors pour moi, il y a 2 grands enjeux dans l'Union européenne et effectivement l'agriculture en est. De toute façon, l'agriculture, c'est aujourd'hui la seule vraie grande politique menée par l'Union européenne. Mais je crois aussi qu'on aura un autre grand enjeu qui est l'Europe de la défense. Voilà, comment on va faire demain pour que l'Europe ne soit plus un nain politique. L'Union européenne, elle est née sur un espoir de paix, sur une volonté de paix, une paix qui est basée sur la prospérité économique et sur le libre-échange. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un grand manque, c'est le fait d'avoir une vraie Europe politique et qu'elle existe, que cette Europe politique existe sur la scène internationale. Les événements récents en Ukraine, mais aussi ce qui se passe en Israël, à Gaza, nous montrent bien qu'il y a un manque au niveau de l'Union européenne à ce niveau-là.
Peut-être pour terminer, toujours dans cet esprit, hein, le 16 avril dernier était publié l'ensemble d'études de l'opinion publique européenne, l'Eurobaromètre, qui donc dans sa dernière publication montre bien ce que vous décrivez, à quel point l'alimentation, mais aussi la sécurité et la défense font partie des priorités à l'esprit des Européens. Que répondre aux électeurs quand on est une eurodéputée comme vous sur ces questions-là ? Quel rôle peut jouer l'Union européenne pour garantir à long terme la sécurité et l'alimentation des Européens ?
Bah moi, je dis d'abord que pour garantir une alimentation saine et une sécurité alimentaire, bah, il faut des députés qui défendent une vision écologique et une vision, une politique cohérente et efficace pour tout ce qui concerne l'agriculture, pour le Green Deal, pour The Farm to Fork. Et que pour ça, on a besoin d'être nombreux et que effectivement, donner la main à l'extrême droite demain et à la droite, ça n'est pas la bonne solution. Je le dis juste comme ça pour exemple, hein, mais l'extrême droite n'a pas hésité à voter la PAC telle qu'elle est aujourd'hui et ils sont les premiers à les dénoncer, c'est quand même hyper contradictoire. Donc voilà, il faut bien avoir ça à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit que voter pour des gens qui sont eurosceptiques, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est renoncer à ce que l'Union européenne aille vers plus de démocratie, aille vers plus de pouvoir politique et donc puisse vraiment faire quelque chose qui soit utile aux citoyens et aux citoyennes avec un cap politique clair et pas un empilement de normes.
Merci Lydie Massard pour vos explications ici sur Euradio. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Euradio, en duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.